Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains, dernière émission de la saison. Et pour animer cette émission, il y a Sophie et Aimé. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous accueillerons Agnès qui représente l'ADMD 49, l'association pour l'aide à mourir dans la dignité. Nous parlerons également de l'actualité et nous écouterons une petite surprise concoctée par Pierre. Nous finirons par l'agenda militant et culturel, mais d'abord commençons par l'éditorial. Sophie, tu vas nous parler de la position d'Amnesty par rapport au conflit israélo-palestinien.
En Israël, à Gaza et dans le reste des territoires palestiniens occupés, un conflit terrible d'une ampleur vraiment incroyable depuis des décennies affecte les vies de millions de civils. Le déchaînement de violence depuis le 7 octobre 2023 a marqué un nouveau tournant dramatique et c'est la population civile qui en paie le prix, très fort d'ailleurs. Suite à des enquêtes, Amnesty dénonce un certain nombre de violations des droits humains commises dans le cadre de ce conflit.
Sophie, tu nous proposes un bref rappel des événements depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.
En effet, rappelons que cette attaque du Hamas et d'autres groupes armés palestiniens a fait au moins 1200 morts et 252 enlèvements. Un accord toutefois a été trouvé dans la nuit du mardi 21 novembre permettant la libération d'au moins 50 otages israéliens, pour la plupart des femmes et des enfants. Depuis, l'organisation islamiste a assuré qu'il ne détenait plus que 40 otages vivants.
Et suite à cette attaque, quelle a été la réponse de l'armée israélienne ?
Celle-ci a été sans commune mesure. Elle a soumis Gaza à une campagne massive de bombardements. Ces attaques aveugles menées contre l'un des territoires les plus densément peuplés du monde, 2,3 millions de personnes sur à peine 360 km², ont causé la mort de plus de 33 000 personnes, dont de nombreux enfants. Plus de la moitié de la population à Gaza est composée d'enfants et d'adolescents. Selon le ministère de la Santé de Gaza, des familles entières ont été décimées.
Mais il n'y a pas eu que des bombardements.
Depuis le 9 octobre, un siège total met en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie. La population gazaoui est privée d'eau, de nourriture, de fioul, d'électricité et les hôpitaux déjà démunis sont privés d'équipements médicaux vitaux. C'est interdit par le droit international humanitaire. À Gaza, 50% de la population vivait sous le seuil de pauvreté et deux tiers dépendaient de l'aide humanitaire en raison du blocus illégal imposé depuis 16 ans, participant au système d'apartheid mis en place par les autorités israéliennes.
Est-ce qu'il y a également des déplacements forcés ?
Tout à fait. Le 13 octobre, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation, y compris des hôpitaux, du nord de la bande de Gaza vers le sud. Cet ordre équivaut à un déplacement forcé de la population civile, ce qui constitue une violation du droit humanitaire international. On estime qu'au moins 85% de la population de Gaza a été déplacée à l'intérieur de ce territoire. Des blackouts successifs entravent les communications, les opérations de sauvetage et les enquêtes sur les crimes commis. Tout ceci s'apparente à une punition collective, ce qui constitue en soi un crime de guerre.
Mais la Cour pénale internationale a prononcé des décisions.
Le 26 janvier, elle a ordonné à Israël de tout faire pour protéger les Palestiniens et Palestiniennes de la bande de Gaza face au risque plausible de génocide. Mais Israël a continué les bombardements ainsi que la limitation de l'aide humanitaire. Le 20 mai, la CPI a condamné 3 dirigeants du Hamas pour faits de meurtre, de torture, de viol et d'autres formes de violence sexuelle, ainsi que les faits de prise d'otages et d'atteinte à la dignité des personnes. Le procureur de la CPI a également demandé des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense. Cette décision envoie un message important à toutes les parties au conflit à Gaza et au-delà. Elles devront rendre compte de la dévastation qu'elles ont infligée aux populations de Gaza et d'Israël. Et ce, quel que soit le pouvoir ou le rang des auteurs présumés de ces crimes. Malgré cela, dans la nuit du dimanche 26 mai, un camp de déplacés palestiniens sur Rafah a été bombardé par l'armée israélienne. Des dizaines de personnes sont mortes brûlées.
Et alors, que dit Amnesty par rapport à cette situation ?
En France, Amnesty a déposé un référé liberté auprès du tribunal administratif de Paris pour demander la suspension des licences d'exportation de certaines catégories de matériel de guerre à destination de l'État d'Israël. Plus globalement, Amnesty demande que tous les États fassent pression sur Israël pour qu'il mette fin à ses opérations terrestres à Rafah et garantisse le libre accès de l'aide humanitaire conformément à leur obligation de prévenir le génocide.
Merci Sophie. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Agnès, représentante de la DMD 49. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir.
Alors, bonsoir.
Bonsoir, on a déjà invité des membres de l'association, mais est-ce que quand même tu peux nous rappeler quelles sont vos missions?
Oui, alors tout à l'heure tu as dit association pour le droit de l'aide à mourir dans... Non, je sais plus ce que tu as dit. Enfin, moi, c'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est pas l'aide à mourir. On en parle, de l'aide à mourir, mais...
Merci pour cette précision.
Et cette association a maintenant plus de 40 ans. Mmh. Elle est forte de 75 000 adhérents dans la France entière, organisée en 120 délégations sur tout le territoire, dont celle du Maine-et-Loire, la délégation... avec 760 adhérents, qui fonctionnent autour d'une équipe composée d'une dizaine de personnes, d'une déléguée, moi-même, de deux délégués adjoints et d'autres membres actifs. Alors, la DMD milite pour demander trois choses essentielles. L'accès universel aux soins palliatifs, quand nous savons que seul 20% de la population peut actuellement en bénéficier en France. Elle milite aussi pour la promotion des directives anticipées pour lesquelles nous avons un fichier national. Nous sommes la seule association ayant un fichier national. Et en dernier, la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie pour les personnes atteintes d'une affection grave, incurable, en phase avancée ou terminale, comme c'est le cas dans d'autres pays européens.
Voilà. En ce moment, on parle beaucoup d'un projet de loi. Et si on t'a invité aussi aujourd'hui pour parler de la DMD, c'est parce que on pense que ce projet de loi, il est bien lié à l'activité de votre association. Enfin, en tout cas, il vous intéresse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de votre action en lien avec ce projet de loi? Est-ce que...
Alors, je vais parler d'un premier temps du projet de loi qui est que le gouvernement a sorti relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. C'est l'intitulé du projet de loi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en avril 2023, il y avait une convention citoyenne sur la fin de vie qui s'est réunie et qui a recommandé le développement des soins palliatifs et l'ouverture sous condition du suicide assisté et de l'euthanasie. Et le projet de loi actuel du gouvernement vise à mettre en œuvre ces recommandations et à offrir des solutions adaptées aux besoins. Le texte visant à renforcer l'accès aux soins palliatifs et à légaliser l'aide à mourir a commencé à être examiné à l'Assemblée nationale lundi dernier, 27 mai. Durant deux semaines, les élus vont se pencher sur ce projet présenté par le gouvernement en avril. Le document est arrivé dans l'hémicycle dans une version remaniée par les députés en commission spéciale, où ils ont notamment notifié certaines des conditions d'accès à un suicide assisté ou à une euthanasie. Le critère, par exemple, du pronostic vital engagé à court et moyen terme, qui était dans la loi du gouvernement, a ainsi été remplacé par cette commission par celui jugé plus large d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. Ce projet de loi promet d'être encore amendé d'ici à son vote solennel en première lecture prévu le 11 juin. Le projet de loi poursuivra ensuite son long parcours législatif, fait d'aller et retour entre l'Assemblée et le Sénat, dont l'issue n'est pas attendue avant l'été 2025. Alors soyons patients.
Et quelle est la position de votre association par rapport à ce projet ?
Alors, nous reconnaissons tout d'abord que l'avancée faite par le gouvernement est importante. Mais nous avons des propositions d'amendements que nous avons soumis aux députés et aux sénateurs. La première proposition, c'est que les directives anticipées doivent être prises en compte dans la décision ultérieure de bénéficier d'une aide active à mourir. Ça, c'est le premier. La deuxième proposition, le maintien de la mention phase avancée ou terminale étant comme condition, comme accès à l'aide à mourir, amendement adopté en commission. Mmh. Hein? Le gouvernement avait dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, court ou moyen terme d'une maladie incurable. Et là, c'est stade avancé ou terminal. Troisième proposition, la décision de la fin de vie doit revenir exclusivement au patient. C'est pas au médecin de décider si on veut mourir, si on n'en peut plus. Quatrième proposition, l'euthanasie ne doit pas figurer dans la loi sous une forme d'exception. Mais il doit bien être la conséquence d'un choix libre du patient entre l'euthanasie et le suicide assisté. Parce que le gouvernement, en ce moment, c'est plutôt suicide assisté. Et la cinquième proposition, enfin, la DMD veillera au rétablissement de la prise en charge des souffrances physiques ou psychologiques à la place de la nouvelle rédaction qui a été rédigée dans le comité, souffrance physique accompagnée éventuellement d'une souffrance psychique. Voilà nos cinq points importants et qu'on...
C'est très précis et en particulier que le choix soit fait par la personne elle-même.
Oui.
Et donc ça me fait penser aux directives anticipées.
Oui.
Voilà, c'est un terme un petit peu particulier. Peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas trop à quoi ça correspond, quelle forme ça a et là, le pouvoir.
Oui,
aussi qu'à cette directive.
Alors, les directives anticipées sont des instructions écrites que donne par avance une personne majeure, consciente, pour le cas où elle serait dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, signée de la main d'elle-même, ou réalisée, c'est important, devant témoin, si la personne n'est pas en état de le faire elle-même. Alors, là-dedans, ce qu'on veut, c'est que dans ces directives anticipées, nous puissions écrire que dans telle situation, nous souhaitons avoir accès à l'euthanasie ou le suicide assisté.
D'accord.
Voilà.
Et toutes ces directives sont rangées donc dans un fichier national.
Alors, on remplit chacun. Alors, il y a les directives à la sécurité sociale sur le site Amélie, il y a des directives anticipées. Je veux pas trop critiquer, mais elles sont un peu compliquées à remplir. Mais enfin, elles existent. Et nous, la DMD, nous avons les nôtres et qui sont sur un recto verso de feuilles. Et donc, d'un côté, on dit nos souhaits et de l'autre côté sont inscrits les personnes de confiance que l'on nomme. Et qui signe, évidemment, régulièrement.
Et avez-vous l'habitude de travailler avec d'autres associations sur ces sujets-là ?
Oui, bien sûr. Nous avons créé, pour défendre ce projet de loi, pour donner nos amendements, nous avons créé un collectif d'associations de près de 27 associations. dont la MGEN, qui est la plus grosse, hein, et qui fait les démarches avec nous auprès des députés pour défendre nos propositions que je vous ai énoncées tout à l'heure.
Ça vous donne plus de pouvoir parce que vous êtes plus nombreux.
Voilà. La MGEN étant quand même une mutuelle imposante.
Alors, pour les personnes qui sont intéressées, soit pour rejoindre la DMD, soit pour faire des directives anticipées, soit pour simplement s'informer. Comment peut-on vous joindre?
Alors, nous avons un site vraiment très, très bien fait sur admd.net. Vous avez tout et vous avez même le contact du département ici, du Maine-et-Loire, et vous pourrez me contacter par le site. Mais tout est bien présenté sur le site.
Le site suffit, il n'y a pas besoin d'avoir de numéro de téléphone.
Non, voilà.
Merci beaucoup Agnès. On se retrouve après une pause musicale.
Merci à vous.
Retour dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM. Vous venez d'écouter un hymne, l'hymne des protestataires de Hong Kong. Ça s'appelle Glory to Hong Kong. Eh bien, sachez que ce chant a été interdit le mois dernier par le gouvernement chinois. Et c'est l'heure maintenant des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
D'après le rapport d'Amnesty International, 2023 est l'année qui a vu un nombre très important d'exécutions, le nombre le plus important, le plus haut niveau en près d'une décennie, notamment en raison d'une flambée des mises à mort au Moyen-Orient et plus particulièrement en Iran. En dépit de cette augmentation, le nombre de pays ayant procédé à des exécutions n'a jamais été aussi bas.
En Russie, les enfants de parents qui s'opposent à la guerre en Ukraine encourent le risque d'être placés en orphelinat. Une forme de répression peu documentée qu'Amnesty met en lumière. C'est l'une des méthodes de représailles des autorités russes pour écraser la dissidence, avec l'endoctrinement via la propagande de guerre, la séparation des familles, le retrait des droits parentaux. Certaines familles russes n'ont d'autre choix que de quitter leur pays pour éviter des poursuites pénales ou une séparation forcée.
Un mois avant les élections européennes, Amnesty a publié un manifeste afin d'inspirer les candidats et de guider les électeurs et électrices qui décideront, par leur vote du 6 au 9 juin, l'orientation que prendra l'UE. Amnesty demande un renforcement d'une Union européenne fermement ancrée sur la protection des droits humains, bien évidemment, et tout particulièrement pour la protection des réfugiés et des migrants et la prise de mesures urgentes et essentielles pour lutter contre le changement climatique.
Après le génocide du Darfour de 2003, qui a fait plus de 400 000 morts, le Soudan est aujourd'hui en proie à une guerre entre l'armée au pouvoir et les forces paramilitaires. Cette guerre dite des généraux a réveillé les violences intercommunautaires. Elle dure depuis avril 2023 et est responsable de la mort de 9 000 personnes ciblées en fonction de leur ethnie. 5,6 millions de personnes ont été chassées de leur foyer et plus de 20 millions sont en besoin d'aide urgente, selon l'ONG Human Rights Watch. D'après le secrétaire général adjoint de l'ONU, il s'agirait de l'un des pires cauchemars humanitaires de l'histoire.
Mardi 28 mai, à 2 mois des Jeux Olympiques, des militants d'Amnesty se sont réunis, vêtus de noir, dans le cimetière du Père-Lachaise à Paris, pour enterrer symboliquement la vie privée. Ils souhaitent ainsi alerter contre les caméras intelligentes et réclamer l'adoption d'une loi interdisant la reconnaissance faciale. Il est essentiel de mettre en garde contre les technologies de surveillance de masse de plus en plus déployées dans nos rues et dans nos transports.
À la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale française d'un projet de loi modifiant les règles électorales en Nouvelle-Calédonie, des troubles violents ont éclaté à Nouméa. L'état d'urgence dans l'archipel a été décrété et des renforts de police et de l'armée ont été déployés, en particulier pour sécuriser les gares et les aéroports. Ces émeutes font suite à des années de tensions. Pour rappel, l'accord de Nouméa, qui date de 1998, avait amené le corps électoral à se prononcer sur l'indépendance de l'île avec 3 référendums entre 2018 et 2021. Et c'est toujours ce texte qui reste en vigueur tant que le vote ne permet pas la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie pour protéger la sécurité juridique et la stabilité institutionnelle du territoire. Il y a des avancées en lien avec les droits des peuples autochtones et puis bien sûr la question de l'autodétermination.
Marisol Garcia Apagueño, représentante du peuple autochtone amazonien Quichua, était à Paris entre le 21 et le 24 mai pour interpeller Total Energy lors de son assemblée générale. Ce que dénonce le peuple Quichua, c'est que le parc national Cordillera Azul a été créé sur leur territoire en 2001 sans leur consentement et que le projet R2DD+ lui a été imposé pour compenser les émissions des entreprises polluantes par l'achat de crédits carbone. C'est ainsi qu'en 2021, le groupe Total Energy a acheté 85 millions de dollars de crédits carbone à ce parc. Le peuple Quichua estime que la compagnie pétrolière a l'intention de blanchir son image d'entreprise avec l'achat de ses prêts, alors que ses activités extractives continuent d'augmenter.
Face à l'intensification des combats, environ 450 000 Rohingyas ont fui de Birmanie, a affirmé l'ONU. C'est en novembre 2023 que les affrontements ont repris à Rakhine, l'armée de l'Arakan mettant ainsi un terme au cessez-le-feu instauré depuis le coup d'État militaire en 2021. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a appelé le Bangladesh et d'autres pays à fournir une protection efficace à ceux qui en font la demande conformément au droit international et à assurer la solidarité internationale avec le Bangladesh dans l'accueil des Rohingyas réfugiés en Birmanie. Une enquête pour génocide a été lancée.
Et pour finir, bravo à l'équipe des étudiants de l'Université d'Angers qui a remporté le prestigieux concours de droit international Charles Rousseau. 10 ans après leur première participation, il y avait 28 équipes qui s'opposaient lors de ce concours francophone avec des procès simulés en droit international. Bravo à eux. Alors Pierre, pour cette dernière émission avant l'été, tu nous proposes une petite surprise. C'est le discours de Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Est-ce que vous en souvenez? Un magnifique discours, 4 oui. minutes de tolérance et d'appel à la paix. Merci Pierre.
Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes. A barricadé le monde avec la haine. Nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés. Victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté! Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur, vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir, il faut tous nous unir, il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse, la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!
Et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
Le 9 juin, de 9h30 à 18h, c'est le salon régional Emmaüs au parc des expositions d'Angers. Il s'agit d'une grande vente au bénéfice d'Emmaüs International, prix de l'entrée 1 euro.
Et je crois qu'il y aura des stands puisque nous y serons.
Oui.
Soirée rencontre le mardi 11 juin à 20h au 400 coups. Pour le film brésilien Sans cœur, en présence de l'association LGBT, les Angéguines.
Le 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Eh bien, elle sera fêtée le samedi 22 juin à Angers. Voilà, ça se passera au Jardin du Mail, au programme des rencontres, des témoignages et de la musique.
Le samedi 29 juin à 10h30, à l'appel de l'AFPS 49, grande manifestation à Angers pour un cessez-le-feu à Gaza, suivi d'un pique-nique.
Et il est déjà presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier Agnès pour sa venue.
Merci à vous.
D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. Passez un très bel été et à bientôt sur les ondes de Radio G.
À bientôt. Au revoir.